بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني في الله. Nous remercions Allah Rabbul Izzah qui nous donne la possibilité de vivre ces dernières layali, ces dernières nuits du mois de Ramadan. Et on se rend compte que le mois est en train de terminer lorsque nous voyons les différentes ajza qui défilent. Et là, ce soir, on a complété le 26e juz. Et quand on entend les mufassalat, les petites sourates qui commencent donc à être récitées, des sourates que beaucoup d'entre nous on mémorise, ben on sait que le Khatm al-Quran est très proche. Et d'ailleurs, le Khatm al-Quran est prévu pour mercredi soir, Inch'Allah, lors de la nuit du 29e, comme on a l'habitude de le faire. Alors justement, quand on parle de la nuit du 29e, ben la nuit du 29e, ce sera la dernière nuit impaire de cette dernière décade du mois de Ramadan. Et là, ce soir, nuit du 24e, c'est-à-dire qu'il nous reste à peu près, on va dire 5 jours ou 6 jours maximum pour essayer de profiter encore un peu plus de ce mois béni. Quel est l'objectif? Quel est l'objectif recherché? Bien sûr, c'est l'objectif global et final, c'est la'allakum tattaqoun, c'est d'obtenir la piété. Mais obtenir la piété va transiter par une quantité d'efforts. Une quantité d'efforts que nous allons essayer de faire durant ce mois, de bonnes actions. Le maximum d'efforts qu'on va essayer de faire et le frein total, l'éloignement total de tout ce qui peut provoquer la colère d'Allah Azza wa Jal. Et de cette façon, on a espoir qu'Allah soit satisfait de nous. Et quand un mu'min accomplit une bonne action, ça c'est un point très important, il doit demander à Allah Azza wa Jal de lui donner la sincérité de ce qu'il accomplit et de lui donner, d'accepter, bien sûr, il y a quatre choses. Il doit demander qu'Allah lui accorde la sincérité. Il doit travailler la sincérité. Deuxièmement, il doit demander à Allah Rabbul Izzah d'accepter l'action qu'il a accomplie. Troisièmement, il doit demander à Allah Azza wa Jal la istiqama, la fermeté dans l'accomplissement de cette bonne action. Et dernière chose, et ça lui revient à lui, c'est de protéger la bonne action. Ce qui nous intéresse, c'est le point 3 et le point 4. Le point 3, c'est le istiqama, la fermeté. Ainsi, lorsque dans la dernière décade, je pense qu'il n'y a pas un croyant qui, durant la dernière décade, ne se réveille pas la nuit pour accomplir le tahajjud, la prière de la nuit. Je pense que tout le monde le fait parce que nous savons que s'il y a bien une période de l'année où il faut répondre présent durant ces nuits, c'est bien durant la dernière décade du mois de Ramadan. Mais cela serait incohérent si pendant 9 nuits, d'affilée, on a déplié notre tapis de prière, pour ceux qui sont pas intécaf, on a déplié notre tapis de prière et on a passé une heure trente, deux heures à invoquer Allah, faire dua, être en prosternation, et que dans notre cœur, on sait pertinemment que lorsque ce sera le Eid, c'est fini. C'est-à-dire ce sajjada là, ce tapis de prière, je vais le retirer que l'année prochaine, pour le prochain Ramadan, les prochaines prières de la nuit. Ce serait là quelque chose qui est incohérent. Ainsi, lorsque nous accomplissons ces bonnes actions, on a des moments d'acceptation de doua, de la dénétière de la nuit entre autres. Et parmi les doua qu'on doit demander, c'est qu'Allah nous accorde la fermeté. En fait, ça ne dépend pas de nous à 100%. Une partie dépend de nous et une grande partie, cela découle de la sagesse d'Allah et de son acceptation. Si Allah a décidé de nous garder dans cette bonne action, ben on continuera. Donc quand je me réveille pendant 9 nuits d'affilée pour accomplir le tahajjud, et faisons l'intention et demandons à Allah, accorde-moi la possibilité de répondre présent à ce rendez-vous avec toi toute ma vie. Même si ça nous paraît difficile et ainsi de suite, faisons l'intention et faisons l'effort de... Même si, après le mois béni, on ne va pas faire 2 ou 3 heures de prière de la nuit, mais même si ça se limite à 10 minutes de rakat ou 4 rakat, ben c'est un rendez-vous que le croyant ne doit pas rater, parce que c'est toute la nuit ça, c'est toute l'année pardon, qu'Allah Azza wa Jal descend, comme cela appartient à Allah, au ciel, à la limite de ce dunya, et Allah est à l'écoute des personnes qui sont réveillées pour le tahajjud. Ça, ce n'est pas spécifique au mois de Ramadan, ça. Ce qui est spécifique au mois de Ramadan, c'est la quantité de malaïka qui descendent. Je voulais dire, ce qui est spécifique à la nuit du destin, c'est la quantité d'anges qui descendent lors de cette nuit du destin et qui remplissent la terre. Donc, c'est synonyme de baraka, de rahma, de lumière et de nour. Mais toute l'année, lors de la dernière tiers de la nuit, akhir thuluthul layl, Allah Azza wa Jal est au ciel qui est à la limite de ce dunya. Et Allah demande, hal min mustaghfirin fa aghfiru la. Y a-t-il des gens qui demandent pardon et que je leur accorde le pardon, et ainsi de suite. D'accord? Et la dernière chose, la dernière condition, enfin, ce qui nous appartient, on va dire, c'est protéger la bonne action. Alors, ça veut dire quoi, protéger une bonne action? C'est faire en sorte qu'après l'avoir accomplie, on ne va pas vendanger, on ne va pas la distribuer aux gens. Comment distribuer la bonne action aux gens? Premièrement, si on se vante d'avoir accompli la bonne action. Si au départ je suis sincère, je l'ai fait avec sincérité, mais après j'ai besoin de faire étalage de ce que j'ai fait. Dire à mes amis, mettre sur les réseaux sociaux, na'oudou billah, dire qu'il y a soit, alhamdoulilah, 2 heures de prière de la nuit et 5 juz que j'ai lus. Waouh, ça c'était une nuit impaire, puissante. Tu as tout donné. Tu as fait montrer aux gens, alors que c'était une action, on va dire, c'est de l'intimité spirituelle entre toi et Allah. Et le fait de garder cette action secrète, ça on le retrouve dans le hadith des 7 catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah, le jour de Qiyam, Allah m'a ja'alna minhum, parmi eux, rajulun dhakar Allah khaliya. Ce qui est précis, c'est un homme qui pense à Allah seul. Fafadat aina, il se met à pleurer. Mais c'est-à-dire, l'action de la nuit doit être fait entre nous et Allah, et surtout ne pas l'exposer aux gens. Et l'autre erreur que on peut commettre, et cela on va dire met en péril l'accomplissement ou la protection de la bonne action, c'est de vendre cette action en faisant le riba, le bohtan, le namima, les péchés en rapport avec les droits des autres. Par exemple, si je fais la médisance, la calomnie, d'accord, je vais causer du tort aux gens, je risque, le jour de Qiyama, de me voir dépossédé, reprendre donc les hasanats, les bonnes actions qui étaient inscrites dans mon livret de compte par rapport à ces bonnes œuvres. Donc, sincérité, demander à Allah de nous accepter, demander à Allah la fermeté et à nous de protéger nos bonnes actions. On avait promis qu'on allait donner un exemple de nuit type. Mais ce n'est qu'à titre d'exemple, comment passer une nuit à Ibadah. Et cela nous a conforté un peu dans notre choix. On a une question d'un jeune qui nous avouait, un jeune étudiant, qui avouait avoir beaucoup de difficultés, donc à rester réveillé toute la nuit. Alors je lis ce message très clairement. Je voulais juste avoir quelques conseils concernant un problème récurrent les soirs du Ramadan. Quels sont les conseils pratiques pour tenir une nuit sans être vaincu par le sommeil? Parce que son cas personnel, c'est que ce jeune dit, je tiens jusqu'à une certaine heure limite, on va dire, et à un moment donné, ce n'est plus possible et la personne s'endort, elle a beaucoup de difficultés. Ça, c'est une réaction humaine, ça, oui ou non? D'autant plus qu'il s'agit d'un étudiant. Donc, c'est-à-dire que le lendemain, il reprend ses cours à la fac ou en prépa, peu importe ce qu'il est en train de faire. Et là, n'oublions jamais qu'Allah connaît le côté humain qui est en nous. Et c'est ce côté humain-là qui plaît à Allah. Quand on essaie de lutter contre la faiblesse humaine pour se soumettre totalement à Allah Azza wa Jal, c'est une action qui est valeureuse. En temps normal, le prophète alayhi salatu wa salam avait interdit, mais je dis bien interdit, à ses compagnons de passer une nuit entière en adoration. Une fois dans la masjid, alayhi salatu wassalam avait vu une corde. Déjà entendu ce hadith? Une corde qui était suspendue. Elle dit, à qui appartient cette corde? Elle a dit que c'est à telle personne. Je sais plus si c'était Zainab ou Maimouna. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, à quoi ça sert? Le sens du hadith dit, elle prie la nuit, qiyamul layl, donc tahajjud, et c'est en dehors du Ramadan, bien sûr. Lorsqu'elle n'en peut plus, elle ne peut plus tenir debout, elle se tient à cette corde pour tenir debout, pour continuer à prier. Le prophète a interdit cela. Et il a donné comme conseil, ça c'est le tafsir de « Ma anzalna alayka al-Qur'an ali les tachqa. Nombreux tafsirs des savants qui rappellent que la bonne action doit être accomplie de façon mesurée, juste milieu. Et faire en sorte que quand tu pries, tu dois être capable de comprendre tes prières. Tu dois avoir l'esprit éveillé. Quand tu sens que tu somnoles, donc il faut arrêter, il faut aller se reposer, de crainte qu'une personne, au lieu de faire doigt, la personne dit n'importe quoi. Je pense que ça nous est peut-être déjà arrivé à un moment donné de pousser dans la salah et on commence à parler. Ça a dû arriver au moins une fois, ça. Ça, c'est vraiment quand on atteint notre limite. Alors, sauf que, ça c'est en temps normal, il ne faut pas aller au-delà de ses capacités. Sauf que, lors de la dernière décade, il faut essayer de lutter et trouver les moyens pour, Inch'Allah, avoir cette force de tenir. Et cela commence par les doigts que nous allons faire au moment de rompre le jeûne. Vous savez, lorsqu'on parle d'une nuit impaire, la nuit impaire, elle ne commence pas après la salat au tarawih. Elle commence quand la nuit en islam? À partir du ghuroub shams, à partir du maghrib. Ainsi donc, lors de la rupture du jeûne, doit être accepté qu'on casse carrément, mieux non? Mais c'est à ce moment-là, tu demandes à Allah Azza wa Jal, Ya Rabb, ce soir, j'ai envie de passer une grande partie de la nuit dans ton adoration. Wala hawla. وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Et donc, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ. Ce Aziz qui te donnera, c'est le seul qui a la force, qui a le pouvoir, pardon, de te donner cette force de tenir. Donc, nous, êtres humains, nous sommes faibles, mais demandons à Allah de nous donner la force nécessaire pour tenir. Ça, c'est sur le plan spirituel. Après, on avait dit, le donner comme conseil, si on peut prendre une douche, ça redonne un peu de force, ça nous rafraîchit. Par exemple, si une personne veut passer la nuit, donc quand il commence 22h30, il prend une douche, idéalement une douche pas trop chaude, au moins parce que le bain chaud ça fait dormir, une douche pas trop chaude, sans non plus se glacer, hein, d'accord, ne pas attraper une bronchite, et ça réveille. Bien. Point suivant, on essaie, dans la mesure du possible, de mettre des vêtements propres, se parfumer, tout ça, ça motive une personne. Le fait d'avoir des vêtements spécifiques, ça te donne une certaine motivation et de l'importance au moment que tu vas passer. Maintenant, il y a des questions un petit peu farfelues. Enfin, farfelues, il n'y a pas de questions farfelues. Personne m'a demandé, est-ce qu'on a le droit de se doper? Je dis tout de suite, tout ce qui est rivotril, l'artane, tout ça, non. Hein, ça c'est clair, on ne rentre pas dans ce domaine. Est-ce qu'on a le droit de prendre donc des substances, d'accord? Bon, il n'y a pas de contrôle antidopage, bien sûr, mais est-ce qu'on a le droit de céder un petit peu, prendre des vitamines C? À mon humble avis, il n'y a pas de problème. Si quelqu'un veut prendre un guironzan ou un supradine ou un vitamine C, bon, je pense que la solution, c'est de prendre un bon café, d'accord? Ça donne un petit coup de fouet quand même, d'accord? Théoriquement, je ne fais pas de publicité pour aucune marque, hein, mais si vous prenez un guironzan, théoriquement, la machine, elle tourne 3 heures. Après, tu tombes net. Hein. Après, tu tombes comme un papaye. Comme un papaye Colombo, quand il tombe, tu es KO. Parce que, en fait, il ne te donne pas de l'énergie. Il puise tout ce que tu as. Et donc, ça te fait avancer comme un bœuf. Et après, à un moment donné, comme il dit, le corps est largue. Mais, à mon humble avis, il n'y a pas de mal. Je connais des gens qui portent le hajj. Enfin, je sors du sujet. Portent le yam ou le hajj, où il faut faire le tawaf, le sa'i. Ben, ils se dopent aux vitamines. Hein. Un le matin, un le midi. Même si ce n'est pas très bon pour la santé. En tout cas, vaut mieux ça que de prendre tout ce qui est boisson, comment on appelle ça? Énergisante, hein? Où il y a de la taurine, où il y a tout ça, c'est des trucs, ça c'est du cancer en boîte, ça, qu'Allah nous protège. Donc tout ça, on élimine. Donc ça, c'était pour la petite anecdote. Une personne nous avait question posée. Je pense qu'il n'y a pas de mal. Et notre nia est vraiment de... Mais quelle sincérité que la personne qui essaie de trouver ses moyens pour tenir debout, et Allah connaît notre ikhlas. Différence entre une personne qui dit, écoute, moi je ne vais pas passer la nuit, j'ai d'autres choses à faire, je dors et puis réveillez-moi 15 minutes avant le fajr. Et une autre personne qui lutte, qui fait l'intention de rester éveillé, mais qui à un moment donné est assommé par le sommeil parce qu'il a eu une dure journée. Et que le lendemain, il aura une autre journée difficile. Allah est Karim, Allah est Rahman, Allah est Rahim, Allah connaît nos faiblesses, Allah connaît nos manquements. Quel est le regard d'Allah sur ce croyant qui, dans son sujoud, dans ses prosternations, s'est endormi pendant 20 minutes, 30 minutes, parce qu'il a été rattrapé par la fatigue de la journée de travail. Mais il se reprend, il se ressaisit, il va refaire les ablutions, il remonte sur son tapis de prière. Allah Akbar, vous ne pensez pas que ça c'est maqboul? Vous ne pensez pas qu'il y a directement l'acceptation de notre Seigneur qui est clément et qui attend de nous un petit effort. Hadith qui rappelle, celui qui fait un pas vers Allah, Allah fait deux pas vers lui. Celui qui vient vers Allah en marchant, Allah vient vers lui en courant. Et ainsi de suite, celui qui se rapproche d'Allah d'un nampant, Allah se rapproche de lui d'une coudée. Il a fait le minimum d'effort, ce que tu peux, et on trouvera l'acceptation de la part d'Allah. Mais on insiste sur le fait qu'on doit faire tout ce qui est possible. Maintenant, si on peut organiser nos journées, essayer de trouver des créneaux pour rattraper le sommeil, c'est pas mal. Soit après Fajr, soit le Qailoula, l'heure du Zohr, une petite sieste d'une heure, ainsi de suite, ça peut aider quand même. Maintenant, si, au vu de nos horaires de travail, de bureau, c'est pas possible, on n'a pas tous le luxe de pouvoir rentrer chez soi entre midi et deux, parfois on travaille dans une autre ville, ainsi de suite, mais on essaie de trouver une solution. Mais ne jamais se résoudre à dire que non, comme je travaille, moi je peux pas. Je vais juste faire deux rakats et prendre mon suhur. Ça, tu peux le faire pendant les 20 premiers jours. Mais la dernière décade, non, il faut se dépasser. Il faut faire l'effort, il faut faire le maximum d'efforts, accompagner des doigts et demander à Allah tawfiq de le faire. À mon humble avis, le nombre de rakats qu'on doit faire, on doit se fixer le qiyam ou l'ail, ça ne doit pas être au-dessous de 10 rakats. Le prophète alayhi salatu wassalam avait l'habitude, je ne vais pas dire de bêtises, je n'ai pas le texte sous mes yeux, il me semble qu'il faisait 12 et il complétait par le witr. Donc on essaie de ne pas descendre, de ne pas faire moins de 10 rakats, mais ikhwan fillah, la quantité de rakats, d'unités de prière, ce n'est pas le plus important. Parce que si une personne va enchaîner des unités de prière avec Alam tara lila fi Quraysh wal asri idha ja'a, on va dire que les unités de prière ont été accomplies, mais la personne n'a pas su puiser la lumière qu'il y a dans ses prières. Parce que la prière de la nuit, de tahajjud, elle doit se distinguer des autres prières de la journée, des autres prières qu'on accomplit. De cette façon, premièrement, voilà quelques pistes qui permettent également de rester d'une certaine façon éveillé et de ne pas entrer dans une routine d'enchaînement de salat, sans arrêt. Premièrement, lorsque nous faisons la prière de la nuit, nous devons avoir cette certitude que c'est un rendez-vous qu'Allah accorde uniquement aux gens qu'il aime. Donc c'est vraiment un privilège. On doit essayer de privilégier un endroit qui est calme, un endroit bien aéré, où il ne fait pas trop chaud, et tout ce qu'on a besoin, on garde à notre disposition. Vous avez une bouteille d'eau, il doit être là. Vous avez besoin d'un paquet de mouchoirs ou autre chose. Pour pas que le diable nous entraîne à droite, à gauche, va chercher ça. Là, tu as faim, petit creux, allez, va manger une banane, va faire un café, il te disperse dans toute la maison. C'est pour ça que le Mu'taqif, lui, il a la chance. Il est là. Il échappe pas. Il est là, donc, il reste dans un endroit confiné et protégé. Il y a quelque chose qui est magnifique, mais ce luxe-là, ce n'est pas donné à tout le monde. Moi-même, je n'ai pas la possibilité de le faire. Si une personne a une terrasse à sa maison, ça serait magnifique de pouvoir faire le Qiyam ul-Layl tout en observant le ciel de temps en temps. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est un spectacle qui est magnifique. Ce spectacle que nous voyons parfois à Muzdalifa quand on va au Hajj, on vit à une époque où plus personne ne regarde le ciel, plus personne ne regarde les étoiles, la beauté d'une nuit étoilée. Mais faire la prière de la nuit et lever les mains. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, des fois, lorsqu'il faisait doua, non qu'on fait doua, c'est comme ça, mais quand c'était intense, il levait les mains bien au-dessus. Et il le faisait il avait fait la veille de Badr. Tellement il faisait doua, les mains levées, que son rida, c'est-à-dire le tissu, la toge qu'il mettait sur lui, était tombée, tellement il avait levé les mains pour demander, implorer Allah Azza wa Jal. À mon sens, c'est quelque chose de très fort que de faire doua et de pouvoir regarder, on ne regarde pas le ciel directement, je veux dire, mais ressentir le ciel, ressentir d'une certaine façon cette création d'Allah, plutôt que d'être confiné dans un carré de béton. Après, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, mais tout ça, c'est des choses qui apportent un petit plus. La salat, le qiyam ou l'ail, on doit essayer de le distinguer par des lectures différentes et des adhkars qui sont plus longues. Qu'est-ce qu'on appelle des lectures différentes? On va essayer, dans la mesure du possible, pour ceux qui connaissent soit le Coran, son intégralité par cœur, ou alors les grands sourates, les grands sourates du Coran, on essayait dans la première rakat, par exemple, alors parmi les passages que le prophète lisait dans la prière de la nuit, c'était « Inna fi khalqi as-samawati wal-ard wa ikhtilafi al-layli wan-nahari la ayatin li ulil albab ». C'est dans l'antana al-birra. par le Inna fi khalqi samawati de la sourate Al-Baqarah. Et le prophète alayhi salat wa salam commençait la prière de la nuit par deux rak'at très courtes. Il ne démarrait pas directement par des longs rak'at. Ça montre également que le corps a besoin de s'habituer, de prendre le rythme. Deux rak'at courtes, ensuite les autres unités de prière se distinguaient par de longues, mais de très longues lectures. Le prophète alayhi salat wa salam pouvait lire la sourate Al-Baqarah, son intégralité dans une prière, et enchaîner avec la sourate Al-Imran, sourate Al-Nisa. Bon, chose qu'on aura peut-être un peu de mal à faire, à tenir, parce que nos genoux, nos mollets, nos... comment on appelle ça, quadriceps, voilà, je ne sais pas sûr si ça tient. Et puis également, ce n'est pas qu'une question de force physique, mais c'est de force spirituelle, de consistance et le fait de s'habituer à le faire. Et l'autre point qui nous manque, c'est la baraka de le temps. Le prophète, alayhi salat wa sallam, lui avait la bénédiction de le temps. Nous, si on, dans une unité de prière, on essaie de al-baqara, et enchaîner, ben, ça va nous prendre la nuit. Parce qu'on n'a plus la même baraka de le temps. Donc, à notre niveau, ce qu'on peut conseiller, c'est dans une première rakat, par exemple, ben, on peut lire ayatul kursi en entier, depuis ayatul alladhina amanu anfiqou, au maximum qu'on connaît. Dans une deuxième rakat, l'akhir baqara, c'est des versets bénis, ça, lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard, la page là, jusqu'à la fin de al-baqara. Dans deux autres unités de prière, on peut lire, par exemple, Yassine, Surat Yassine, soit en entier, soit en le coupant. C'est-à-dire que faire en sorte de faire de longues unités de prière. Pas des petites sourates. Si on les connaît, au mieux. On a la Surat Al-Kahf également, qui est très long, qu'on peut couper en trois, en quatre, enfin, que je dis en trois, en quatre ou en six unités de prière. Ça aussi, c'est possible. C'est le conseil des savants, faire de longues unités de prière. Ça concerne nos lectures. Maintenant, concernant les adhkar. Quand on est, par exemple, dans le ruku', certes, le dhikr le plus adapté pour le ruku', c'est Subhan Rabbi al-Azim. Et pour le sujoud, Subhan Rabbi al-A'la. Ce qui serait bien, ce serait de varier un petit peu les adhkar dans la génuflexion et dans la prosternation, bien sûr, en revenant vers les adhkar qui sont sunnah, que le prophète faisait, mais ça permet également de lire autre chose. Parmi ces adhkar du ruku', Subhan Rabbi al-Azim, ça on connaît. Subhan Rabbi al-Azim wa bihamdi. On a rajouté quoi? Wa bihamdi. Subuhun quddusun, très connu. Rabbul malaikati wa ruh. Subhanak Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Là on a le tasbih, on a le tahmid et on a une demande de pardon. Allahumma gfirli. Allahumma laka raka'tu. Ou Allah, c'est pour toi que je fais le recours. Wabika amantu, et j'ai foi en toi. Walaka aslamtu, et c'est pour toi que je me soumets. Khasha alaka sam'i wa basari wa mahyaya wa mukhi wa 'azmi, plutôt que mes yeux, mes oreilles, mon cœur, mes os se sont soumis à toi. Ça, c'est un doigt un peu plus difficile. Ce qu'on peut conseiller, c'est Subhan Rabbi al-Azim wa bihamdi, ou alors le dhikr que le prophète avait expliqué, qui est très loin de la balance, c'est Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahi al-Azim. On peut lire également Subhanallahi wa alhamdulillahi wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-Ali al-Azim. Il n'y a pas de limite. Le prophète alayhi salat wa salam faisait des ruku'a qui étaient aussi longs que ses qiyam et des sujoud aussi long que c'est ruku'. Donc, si on n'a pas de problème de dos et qu'on peut tenir un ruku' de 5 minutes, khair wa ni'ma, en lisant le maximum de tasbihat. Quand on se relève, sami Allah man hamida, après il y a un doigt un peu plus long. Panawlaka alhamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ard wa ma baynahuma. Si on peut l'apprendre par que c'est l'occasion d'apprendre quelque chose. Parce que comme dit on a arrêté d'apprendre depuis qu'on n'est plus à la madrasa, on n'apprend plus rien. Il y a des adhkars qu'on trouve dans le petit livret La Citadelle du musulman, on les mémorise. Je vous assure, quand on lit quelque chose de, entre guillemets, de nouveau, ben, ça sort, on sort de la routine et on trouve un peu plus de motivation. Pareil pour la prosternation, Subhan Rabbi al-A'la, Subhan Rabbi al-A'la wa bihamdi, et d'autres adhkars que je vous conseille, donc il y en a beaucoup, il y en a énormément. Il y a les doigts de Maghfira. Allahumma ghfir li dhanbi kullah diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu, des doigts qu'on retrouve dans la sédelle du musulman, et sachant que quand on est en sujoud, c'est la position où on est le plus proche d'Allah. Donc dans cet instant-là, demander à Allah pardon. Moi je conseille la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Vous savez que lire la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 40 fois, ou certains disent 100 fois, ça c'est quelque chose de très fort. Mais c'est vraiment l'occasion d'essayer de lire 100 fois la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin dans chaque prosternation. Et je vous assure, ça donne une autre approche totale de notre salat. Et on trouvera beaucoup plus de dévotion, inshallah, et de concentration. Hada. Ce qu'on peut donner comme conseil également, c'est de faire des pauses entre les deux rak'at. Ne pas enchaîner. Pas bon, là c'est l'heure de la prière, donc deux rak'at, et on enchaîne. Après on lit une tonne Qur'an, une tonne dhikr. Je crains que c'est là qu'on finira par s'endormir. Ce qu'on peut conseiller, deux unités de prière, on pose. Là, vous prenez, si vous aimez le sabbaha, prenez le sabbaha. Si vous n'êtes pas favorable au chapelet, vous faites avec les doigts ou de tête, c'est vous qui voyez. Et là, idéalement, 100 fois, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, c'est un verset du Coran, et c'est le doigt par excellence pour demander pardon à Allah Azza wa Jal pour ses péchés. Parce que très souvent, ce qui nous empêche également d'accrocher à nos prières et de trouver la concentration, ce sont les péchés qui restent sur le cœur. Ça, on en avait déjà parlé. Maintenant, le fait de lire La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 100 fois Astaghfirullah, ou alors Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilay, ou alors Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilay, ou alors idéalement le doua Allahumma anta Rabbi la ilaha illa ant, ce qu'on appelle le Sayyidul Istighfar. À nous de trouver la formule qu'on connaît, qui n'est pas trop difficile, et essayons de faire 100, 200, 1000 istighfar ou différents adhkar entre les différents rakats de tahajjud. Quitte à ce qu'on prenne un peu notre mushaf, également Qur'an, ben on lit 15 minutes, 20 minutes, les tasbihat, on peut faire doua. Ça c'est un point important. On essaie de faire des doua par thème. Il y a des fois où, dans la tête, tout se mélange. Tu commences par demander le paradis, ensuite réussite le bac, après une bonne épouse, après ça va de tous les sens. Allah connaît ce qu'on a besoin. D'accord? Mais je veux dire qu'il faut être ordonné de sa tête. Si quelqu'un te reçoit, dis-moi là, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Oui, j'aimerais avoir un contrat de travail ici, mais j'aimerais aller voyager tel pays là-bas. Attends, tu veux travailler ou tu veux voyager? C'est-à-dire, on a un peu de mal à comprendre. Mais Allah nous connaît, hein? Ça, ne vous inquiétez pas. Ce que je veux dire, pour que nous-mêmes, on ne passe pas à côté de doua, c'est un conseil, ça c'est personnel, ce n'est pas une sunna ou autre chose, mais entre les deux rakat, faites des portions de doua, 10 minutes de doua. Après vous faites deux rakat, vous refaites 10 minutes de doua. Première pause de 10 minutes de doua, demandez doua pour votre iman, et votre istiqama, et la fermeté, et la guider. Après deux rakat de tahajjud, maintenant demandez doua pour vos enfants. Qu'Allah les garde sous sa protection. Qu'Allah leur accorde un avenir radieux où ils avancent sur le salat al-mustaqim. Qu'Allah les protège, les garde en bonne santé, les protège donc des maladies. Qu'Allah les protège min kulli aynin lamma, contre le mauvais regard, contre les shayatin al-insi wal-jin, contre al-fitan, ma dhahara minha wa ma batan. Il y a énormément de choses qu'on doit demander pour nos enfants. Vous faites de la rak'at de tahajjud, vous faites des adhkar, 15 minutes, vous lisez le Qur'an 15 minutes, et là vous faites doua. Cette fois-ci, vous faites doua pour votre situation, on va dire, de ce dunya, votre travail, situation financière, stabilité de la famille, de le couple, et ainsi de suite. Donc, si on classifie, on fait des rubriques, permettez-moi, on fait des rubriques de doua, je pense que c'est plus productif. Et on est plus concentré, on ne passe pas à côté de certaines invocations ou de certaines demandes qui nous sont chères et importantes. Ne jamais oublier que les doua doivent commencer par salatu ala nabi et terminer par As-salatu ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif, comme on dit. Hein? D'accord? Et si on connaît quelques noms d'Allah, demandez à Allah par ses noms. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, Ya Razak, Ya Malik. Et les autres noms d'Allah que nous connaissons, en demandant Allah par ses noms, il y a plus de chances d'être accepté. Je vais compléter, parce qu'on était un peu long ce soir. Si on veut avoir la garantie que nos doigts sont acceptés, il y a une chose à faire. Ça peut paraître bizarre, mais c'est faire doua pour quelqu'un d'autre. Quand tu fais doua pour ton frère, en islam, hadith qui stipule que un ange vient et il dit Amin walaka mithlu dhalik. Par exemple, je demande doua pour le frère Abdul Qadir. Qu'Allah le garde en bonne santé, lui accorde la réussite, et ainsi de suite. Mais un ange, il dit Amin pour ce que je demande pour mon frère, et il dit Walaka mithlu dhalik. Et Allah t'accorde la même chose. Allah t'accorde la même chose. Et là, on a les Amin d'un ange. Ça, c'est le hadith qui nous rappelle. Fait un doua pour son prochain, ça nous permet de voir ce doua accepté pour nous-mêmes en premier. Voilà donc quelques pistes de réflexion. Il y en avait d'autres. Mais là, je pense que tout le monde est un peu fatigué également. Et parfois, quand on a mal au genou, mal au mollet, on a mal au dos, rester debout, de faire prière de la nuit, ainsi de suite, mais on se dit que c'est peut-être le seul moment de l'année où je fais ces efforts. Et donc, autant le faire et de tenir au mieux et au maximum. Et qu'Allah Azza wa Jalla accepte. Le croyant heureux, c'est celui qui ressort de ce mois béni et il sait qu'il a tout donné. Il sait que tout ce qui était possible, ben il a fait. Et il n'y a pas eu un moment de rafla, d'insouciance, d'inattention, de paresse. Il a donné tout ce qu'il pouvait. Et quand il y a eu des moments de faiblesse, il a baissé les bras. Allah connaît notre limite et notre faiblesse. Mais faisons en sorte de ne rien laisser. Qu'Allah nous accepte. Pour les quelques nuits qui restent et les journées. Que ce Ramadan soit vraiment le plus beau Ramadan de notre vie et qu'il nous permet de changer vraiment notre vie. De prendre un nouveau départ, une nouvelle vie qui sera agréée par Allah avec de bonnes, voire de meilleures habitudes et un éloignement total de tout ce qui pouvait être un frein ou un obstacle entre nous et Allah. Ma tawfiq illa billah. Subhanallah, bihamdihi, subhanakallahumma, bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.